Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le chip.
Le chip.
Le chip.
Le chip.
Bonjour à tous, vous êtes encore en train de digérer vos pois d'Angole et ou votre dinde au marron, tandis que la France s'enfonce doucement mais sûrement dans la révolution. Ne paniquez pas, vous écoutez le chip. Bonjour, je suis Kevin Donna et comme toujours, je suis entouré de Mélanie Wonga.
Bonjour Kevin Donna.
Et de François Oulak.
Skuskul.
On vient d'enregistrer notre premier chip live. On est le lendemain. Des réactions? Comment vous l'avez senti?
Moi, je suis sorti très content de ce qu'on a fait, très content des réactions des auditeurs.
Les gens ont ri.
Oui, les gens ont ri, c'était incroyable. Je suis aussi ressorti extrêmement en colère et frustré. Car en colère contre toi, si tu veux savoir.
Ah ouais?
Oui, tout à fait. Parce qu'au cours de l'émission, tu as cité pas moins de deux, voire trois fois, je crois, Booba.
Deux fois,
lyrics de Booba. Donc, omniprésent fort comme Congolais dans Rue de Bruxelles. Et les vainqueurs l'écrivent et les vaincus racontent l'histoire. De Neuf de Yveron. Je suis extrêmement énervé. Je suis censé être le fan numéro un de Booba ici.
Le B2ologue.
Ouais, je suis sorti un peu humilié, voilà.
Tu as échoué aux yeux de Booba.
J'ai échoué à mes propres yeux, même si tu veux savoir.
Moi, j'ai eu l'impression que ça avait duré 10 minutes ce live, j'ai pas compris ce qui se passait. Je me rappelle beaucoup de stress au début, puis boum, ça a lieu et c'est fini.
Ouais.
Mais j'ai l'impression que c'est plutôt bien passé.
C'est un peu ça, les impressions de monter sur scène, etc. C'est un peu comme les accidents de voiture. Voilà, ça s'est passé, tu sais pas trop comment t'arrives là.
Comme un accident de voiture, faut faire la même chose après, c'est-à-dire qu'il faut reprendre le volant très vite. Donc on va faire un live dès le mois prochain. Non, c'est faux. Ne prenez pas les places.
Un petit bruit buccal. Subtilement dosé, le chip est en danger.
Rendez-nous les chips. Du coup, aujourd'hui, on fait un chip un peu spécial. Vous nous écoutez en différé. On enregistre avant les vacances de Noël, donc pas de trash ou iconique. À la place, on a décidé de vous faire un truc un peu plus perso et de vous parler de choses qui nous ont obsédés ces derniers temps en 2018. Mel, c'est toi qui vas commencer. Je crois que tu veux nous parler des Spice Girls.
Ouais, des Spice Girls et plus précisément de Mélanie B. Parce que, alors bon, les Spice Girls ont annoncé une nouvelle tournée, mais sans Victoria, donc elles sont pas en entier. Mais voilà, moi je vais vous expliquer mon obsession avec les Spice Girls, et particulièrement Mélanie B. Alors, comme on est vraiment vieux, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent vraiment, vraiment pas connaître, parce que ça se passe en 1997.
Ah ouais.
Je suis en 5e, j'ai 13 ans, et dans la cour de récré, ma meilleure amie de l'époque, Kelly, me demande si j'ai entendu une chanson à la radio, et la chanson, c'est ça. Donc bien sûr que je l'avais entendu cette chanson, et j'avais même vu le clip à la télé, hashtag old. Et en fait j'avais été tout de suite comme hypnotisée, parce qu'à l'époque, ce qu'on proposait surtout aux jeunes filles comme type de musique, c'était les boys bands, donc on se rappelle les Take That, les Backstreet Boys, ou plus terroir, les To Be Free et les Alliages. Donc non seulement les Spice Girls c'était des filles, mais en plus elles s'amusaient. Dans le clip de Wannabe, la chanson qu'on vient d'entendre, qui est leur premier single et une chanson qui a eu un succès phénoménal, elles sautaient partout, elles marchaient sur les tables, elles riaient, elles criaient, et elles étaient amies. Et les garçons, c'était pas au centre de leurs préoccupations, ce qui surtout en fait semblait être plutôt le fait de rigoler ensemble et de crier girl power, qui était leur mantra. Alors à l'époque, moi, j'avais jamais entendu parler de féminisme. Mais je savais que les garçons ne s'intéressaient pas à moi, parce que j'avais des cheveux bizarres, que j'étais la seule non-blanche de ma classe. Et du coup, je préférais parler, lire et rire avec mes copines, plutôt que de parler aux garçons, en fait. Du coup, je ne m'identifiais pas du tout à ce fanatisme autour des boys bands. Et en plus, dans le groupe, il y avait deux Mélanie, et l'une d'entre elles était noire. Donc, je n'avais jamais vu ça en France. Et forcément, avec mes copines, on s'est retrouvés à créer un ersatz de ce groupe. Donc, moi, bien sûr, j'étais Mélanie B. Kelly, c'était Emma.
Attends,
Baby Spice.
T'habitais où à l'époque? À PACA ou en Normandie?
PACA.
Waouh.
Et t'as jamais fangirlé sur les To Be Free?
Ah non. Pas du tout. Je l'ai trouvé ridicule.
Ah ouais,
ouais.
Putain, t'étais vraiment en avance sur ton temps.
Ouais, ouais. Je pense que, ouais. Non, mais je sais pas. En fait, ça m'intéressait pas. Alors que là, il y avait vraiment une énergie, un truc où j'ai tout de suite accroché. Et du coup, pour moi, Mel B, c'était ma représentation avant l'heure, en fait. C'était un personnage et c'était dans le groupe. Pour moi, c'était une place où, en tant que petite fille noire, jeune fille noire, je pouvais me voir et je pouvais me sentir valorisée dans un groupe d'amis où j'étais pas traitée en inférieure ou en second rôle, dans le fond, mais en égale, en fait. Et où la couleur de peau, en fait, n'était pas au centre des préoccupations.
Mais t'es sûr de ça pour Mel B?
En tout cas, moi, c'est ce que je ressentais.
D'accord, parce qu'elle avait des rôles très...
Oui, alors ça, je vais en parler, c'était très stéréotypé. Ouais. Mais effectivement, le fait de voir ce groupe-là, et après, tu crées un groupe avec tes copines, en fait, t'as ta place dedans. Tu vois,
elles avaient déjà mérité d'exister, quoi.
C'est voilà, alors que si elles avaient toutes été blanches, je suis pas sûre que ça aurait résonné comme ça en moi, en fait.
Ouais, je comprends.
Et alors bien sûr, aujourd'hui, avec mes lunettes d'adulte, hein, je me rends compte que déjà, le fait que des femmes adultes soient réduites à la notion d'épice, c'est un petit peu limite. tout comme le fait que Mel B soit la seule femme noire du groupe, du coup, un token.
CF, l'épisode live.
Voilà, confère. Et bien sûr, le fait que Mel B soit surnommée Scary Spice, c'est pas anodin pour une femme noire.
Ça rend... comme voilà. Ça.
Bah, chacune avait un surnom, il y avait Baby Spice, Posh Spice, Scary Spice, ouais. C'était Mel B, Sporty Spice, c'était Mel C, ouais. Et l'autre, c'était Ginger Spice.
Ginger, c'était Jerry.
Jerry Halliwell. Mais effectivement, le fait que la femme noire s'appelle Scary Spice, ça renforce vraiment le stéréotype de la femme noire en colère, sauvage, incontrôlable, qui fait peur, qui est impressionnante. Surtout quand tu la mets côte à côte d'autres filles qui sont baby, qui est un peu problématique. Du coup, juste Baby Spice, déjà, c'est problématique en lui-même. Mais voilà, tu mets à côté Scary Spice en plus. Ou Snob, la fille bien propre sur elle, voilà, t'as Victoria Beckham, Posh Spice. Donc, je me rends compte que le package Spice Girl, en fait, c'était un coup de génie marketing créé par des hommes qui reposait sur des concepts limitants de ce que pouvait être une femme, en fait. Et je me rends aussi compte que Mélanie B, en tant que femme noire, elle a dû se sentir souvent seule en tant que token et elle a dû en voir des vertes et des pas mûres. Mais du coup, je me sens proche d'elle par cette expérience-là parce qu'au final, en tant que... J'étais aussi le token au final de ma classe. Donc, je sais pas, il y a quelque chose qui a dû faire un lien en moi.
Et est-ce qu'en grandissant, quelques années plus tard, tu te dis que peut-être que t'es les 5 Spice Girls en une, tu vois,
toutes
que t'es un
femmes
peu
de ta vie. Les femmes de ta vie.
Tu vois, c'est ça, c'est ça. Et donc, c'est quoi? C'est L5, c'est ça?
C'est les L5.
La boucle est bouclée.
mais alors, je veux juste dire qu'en fait, on se dit, ouais, c'est de la pop, c'est un truc pour les gamines, c'est un truc qui a été créé par des mecs et tout. Mais pour moi, il y a quand même un aspect politique chez Spice Girls. Et du coup, chez Mel B aussi, parce que la graine de la discorde, elle a été créée dans le concept des Spice Girls, parce qu'effectivement il y a les filles, elles sont mignonnes, machin, mais il y a le girl power, donc j'aime mes copines, je me soucie pas des mecs et je fais ce que je veux, et ça c'est un peu la porte ouverte à tous les féminismes 10 ans ou 20 ans plus tard, quoi. Ça commence par ça et puis ça se finit par la remise en cause du genre comme construction sociale, l'appel à la révolte contre le patriarcat.
Sur M6 et Fun Radio.
Et du coup, non, les Spice Girls, elles ont quand même ouvert la voie à d'autres groupes féminins et de nombreux artistes féministes d'aujourd'hui se réclament d'avoir commencé à chanter grâce à elles. Je pense à Adele ou nommée aux Oscars Lady Gaga.
C'est vrai.
Ouais. Et du coup, pour moi, le groupe n'est pas sans défaut, le concept n'est pas sans défaut, mais ça a contribué à la mainstreamisation, je dirais, du féminisme et des valeurs aussi d'antiracisme. Et pour ça, je pense notamment à un moment important qui a refait surface il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. Ça se passe en 1997, donc vraiment au moment où elles explosent en Europe, hein, comme aux États-Unis, et où elles sont invitées sur tous les plateaux de télé. Donc elles arrivent donc dans un show qui s'appelle La de Leeuw, un show néerlandais qui est présenté par Paul de Leeuw. Peut-être que j'écorche son nom, mais c'est pas grave. Parce que bien sûr, sur le plateau, il y a un groupe de Zwarte Pites qui débarquent, les pierres noires du coup, qui sont les aides du père Fouettard et qui sont souvent des personnes blanches grimées en noir.
Ils vont jamais nous laisser tranquilles en fait, les blancs,
non,
avec ça.
Ils ont toujours fait ça. Et donc, à la grande joie du public, hein, ils arrivent. Hein, ils sont grimés en noir, les lèvres bien rouges, bien protubérantes, et ils arrivent. Et ça donne ça. Tout le monde applaudit.
I think they shouldn't paint their faces. You should get proper black people to do. You shouldn't paint their faces.
Cet accent anglais.
I don't think that's very good.
No, that's tradition. That's culture. That's tradition.
Yeah, but you should get proper.
One of the five is Winnie Mandela. Hello, Winnie.
Voilà. Donc. Donc ils arrivent sur le plateau et les Spice Girls réagissent tout de suite en fait. Jerry et Emma font bouh et Mélanie B dit non, non, non. Et en fait, elle dit, quand elle prend la parole, elle dit ils n'auraient pas dû peindre leur visage, vous auriez dû embaucher de vraies personnes noires, c'est pas bien. It's not right. Et donc, ce à quoi l'animateur lui répond une excuse qu'on a tous entendue, qui est très classique, qui est mais c'est la culture. Et puis
c'est
d'ailleurs,
tradition,
tiens,
dit,
c'est la
crois,
tradition.
Ouais.
Et d'ailleurs, regarde, il y a Winnie Mandela derrière. Tout le monde qui
c'est
rigole.
C'est Winnie Mandela, je comprends pas. Enfin, la femme.
Oui, la femme.
Oui, j'ai compris, mais elle est sur le plateau.
Non, non, c'est
juste
c'est
une des personnes.
Une des personnes grimées.
Putain.
Voilà, donc non, pas du tout malaise en 1997. Pour moi, c'est pour ça qu'elles étaient en avance sur leur temps. C'est-à-dire que déjà, elles étaient dans la call-out culture, quoi. Elles disaient non, non, c'est pas bien de faire ça. Donc là, j'ai pas mis ça dans l'extrait, mais à la fin du moment, Mélanie B dit vous devriez changer ça. On est dans les années 90 quand même, ce
quand
que
même.
Je trouve génial. Parce qu'il y a un blog qui s'appelle This is the 90s et qui recense tous les moments où dans la pop culture, t'as des personnes, des personnages qui disent This is the 90s, we can't do that anymore. Je trouve ça génial. Parce que c'est vraiment une époque qui était dans une mouvance progressiste, en fait. Et donc, en ce qui concerne l'excuse de c'est la culture, c'est Jerry qui a le mot de la fin et qui lui dit Update your culture. Donc, je trouve ça génial.
Mettez-la au goût du jour.
Voilà.
Surtout 30 ans après, c'est drôle de voir.
Bah ouais, et c'est pour ça que ça a refait surface. Quand ça a refait surface sur Twitter, c'est-à-dire que déjà, il y avait ça et déjà, les gens disaient mais arrêtez de faire du blackface, quoi. Donc, voilà. C'était des filles qui avaient un impact politique pour moi. Malheureusement, effectivement, les Spice Girls n'ont pas résolu le racisme.
Non.
Mais elles étaient du genre donc à call out les blackface à la télévision en direct, quand en France, on nous dit aujourd'hui toujours que c'est rien, 20 grosses années plus tard, que c'est pas grave, qu'il faut qu'on arrête de se vexer pour rien. Donc pour moi, il y a un impact quand même qui se fait toujours ressentir. En 2016, il y a une association caritative qui s'appelle The Global Goals qui a créé un hashtag qui s'appelle What I Really, Really Want. Voilà, en référence à la chanson Wannabe, et qui a recréé le clip en fait avec des jeunes femmes artistes issues de plein de pays du monde, donc du Royaume-Uni, Afrique du Sud, USA, Inde, Canada, Nigeria. Et qui ont vraiment retourné en fait la charge en fait politique des Spice Girls qui prônaient des valeurs féministes en disant bah voilà moi ce que je veux vraiment 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 c'est l'égalité salariale, la fin des violences envers les femmes, la fin des mariages des enfants et en fait elles ont encouragé les femmes à utiliser ce hashtag et à tweeter ce qu'elles voulaient vraiment vraiment demander à leur gouvernement et ensuite elles ont présenté les réponses à l'ONU. Donc, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est parti d'un concept marketing, mais en fait, ça a façonné une génération de jeunes femmes. Et en plus, aujourd'hui encore, il y a un écho. Donc, je termine juste sur la vie IRL de Mel B, qui n'a pas été de tout repos parce que sa carrière solo n'a jamais vraiment pris à l'issue du hiatus des Spice Girls. Elle a eu des partenaires abusifs. Elle a eu un enfant avec Eddie Murphy.
Il refusait au début
qu'il a mis des années à reconnaître. Mais il l'a fait seulement après qu'il y ait eu un test de paternité défectué. Donc Mel B, c'est pas devenue une grande star, mais elle est restée, je pense, un modèle et une inspiration pour pas mal de jeunes et de moins jeunes femmes, du coup, dont je fais partie.
François, tu fais partie de cette trentenaire qui reste bloquée à DBZ.
En fait c'est un épisode spécial.
Épisode rétro.
Oh
c'est
my
ça.
God.
C'est ça.
Oui, alors moi, comme beaucoup de trentenaires, j'ai grandi en regardant Dragon Ball Z et je suis toujours à ce jour un grand fan de ce manga. Je suis pas comme ces mecs, vous savez, qui ont regardé le Club Dorothée, qui ont un peu lâché l'affaire. Non, mais qui assument, mais pour qui c'est quelque chose du passé. C'est comme ces gens qui disent ah moi j'écoutais beaucoup de rap, hein, NTM, IAM, j'adorais, mais qui ont totalement lâché pour Vianney, par exemple.
J'arrête à Sniper.
Ouais, voilà. Moi j'ai vraiment
juste
continué.
Une question, tu aimais le générique français de DBZ?
Je l'aimais,
la
bien sûr,
parce
qu'Ariane. À l'époque, j'avais...
Non, d'Ariane.
Ah oui, Ariane, c'est vrai. C'est
à l'époque, j'avais 5 ans, donc évidemment que je l'adorais. Ouais. Maintenant que je chante Chala et Chala parce que je suis un vrai. C'est le générique original japonais. Et donc, en traînant sur les internets américains, j'ai découvert un débat récurrent assez intéressant. Piccolo est-il noir? Donc, je vous mets un peu dans l'ambiance avec
trop bien
le récap précédemment. L'épisode du Chip.
Dans les 125 épisodes précédents.
Piccolo, donc petit cœur en VF, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un grand mec vert, le pire ennemi de Goku jusqu'à l'arrivée de Vegeta. C'est en fait un homme du peuple des Namek. Et son attaque la plus connue, c'est Aiguille magique en français. En version japonaise, Makanko Sapo, parce qu'évidemment, je suis encore une fois un vrai. La question.
Weird flex, ok.
François, j'ai une question, t'es vierge?
Non, j'arrête.
Cette blague est tellement 95. This is the 90s. La question, donc, Piccolo est-il noir ? Je la connaissais pas. La question se pose sur des tas de sites de référence comme Black Girls Nerd, Kanzenshu, qui est le site référence de DBZ aux États-Unis, NeoGAF, qui est également un gros forum consacré à la culture pop culture et à la culture manga aux États-Unis. Beaucoup de chaînes YouTube également. Et moi, c'est une question que je m'étais jamais posée. Donc, j'étais assez étonné de voir que si vous tapez Piccolo Black DBZ, vous avez énormément de résultats et d'articles, de think pieces et de sujets, de topics, de forums sur la question. Je trouvais ça marrant. Et donc, je vais vous résumer un peu les arguments qui vont dans ce sens-là. Alors, le premier, évidemment, c'est la couleur de la peau. Piccolo a la peau verte. Dans l'environnement Dragon Ball, c'est le seul Namek, alors que tous les autres personnages sont de peau blanche. Ils ont beau être extraterrestres de la planète Saiyan, en fait, ils ont quand même la peau blanche. C'est quand même des white people pour la plupart. Et donc, partout où il va, il détonne forcément avec son environnement, tout comme le peut l'être un homme noir ou une femme noire dans un environnement dominé par des blancs, par exemple aux États-Unis. Évidemment, il a aussi une carrure très grande et très large, donc forcément, il y a beaucoup de gens dans les forums qui disent « Ah, il serait vraiment bon au basketball, hein, vous savez ?» Donc, ça fait partie des arguments qui font que les gens ont l'impression de reconnaître le black guy de la série. Il a également le fait qu'il a une voix très grave. Alors ça, je pense que c'est plutôt quelque chose qui a à voir avec l'adaptation américaine de Dragon Ball Z. Il faut savoir que l'adaptation américaine de Dragon Ball Z est, pour ma part, désastreuse. Je suis quelqu'un qui suis très attaché aux questions de doublage. Les voix...
On avait fait un truc sur ça où tu nous avais dit « he's black », tu te rappelles ?
Oui, ça c'était « don't shoot this man, he's not black ».«
He's not black ». Mais ça c'était marrant, tu vois, parce que du coup, c'était la traduction, tu vois, en anglais faisait que ça donnait une sorte
peut-être
de quiproquo.
Peut-être que t'expliques, je sais pas.
Ouais, bah en fait, oui, c'était dans un épisode précédent du Chip, où en fait, il y a un ennemi dans la nouvelle série Dragon Ball Super qui s'appelle Goku Black, parce qu'en fait, c'est une sorte de version maléfique de Goku, et en fait, il peut prendre l'apparence qu'il veut. Il peut vraiment changer, il est sort métamorphe. Et en gros, à un moment, il y a des hommes de l'armée qui essaient d'arrêter ce mec. Ils savent pas que bon, des guns contre un ennemi aussi puissant, ça servira à rien. Et il y a Trunks qui s'interpose et qui dit « Don't shoot this man, he's not black !» Et donc ça avait évidemment beaucoup fait rire jaune, la communauté américaine. Non, ce que je dis par rapport à la voix de Piccolo et la voix très grave, c'est que DBZ a été doublé par des catcheurs, en fait, aux États-Unis. Parce qu'en fait, pour eux, DBZ, pour les Américains, DBZ, c'est quelque chose de très viril, parce que c'est des personnages très musclés qui se battent, qui envoient des boules de feu, et donc ils comprenaient pas que Goku est une voix quasiment féminine parce qu'il est doublé par une femme en fait au Japon.
Ah,
et donc
ils ont
Naruto aussi.
Et donc le générique de Dragon Ball Z c'était très très métal, et les voix étaient les personnages ont des voix de catcheur. Ah ouais, vraiment. Et quand vous jouez
c'est
à,
pour les bros
à... Non mais c'est relou, parce que quand vous jouez à Budokai par exemple, ou d'autres jeux de DBZ sur console, on n'a pas toujours le choix du doublage japonais, et donc du coup tu tapes les voix anglaises, et c'est vraiment affreux. Donc bref, oui, Piccolo a une voix très très grave, et donc il pense que c'est un peu un black guy pour ça, mais en France on n'a pas ce problème là il a une voix rauque mais pas plus grave que les autres. Autre argument,
c'est pas Lucien Jean-Baptiste qui le double dans les années 90.
C'est pas Lucien Jean-Baptiste qui le double.
Le point Lucien Jean-Baptiste.
Ça va devenir
un marronnier du type,
un running gag. L'autre truc, c'est que Piccolo meurt souvent.
Oui.
Piccolo est l'un des personnages de DBZ qui meurt le plus souvent avec Krillin. Il meurt trois fois. Même Goku ne meurt que deux fois. Si vous comptez pas la fois dans la timeline alternative de Trunks où il meurt d'une maladie du cœur, ouais. Ça fait trois. Il meurt deux fois. Et donc il y a juste Krillin et Piccolo qui sont morts trois fois. Même cette grosse victime de Yamcha n'est mort que deux fois. Donc c'est vraiment emmerdant. Autre argument, Piccolo a du swag. Les gens le trouvent que c'est le gardien du swag dans la série. Et
c'est la cape, non ?
C'est ben, figure-toi qu'il y a une chaîne YouTube qui consacre qui fait une vidéo, un sujet sur Piccolo est-il noir, et tout un segment de la vidéo est consacré à la cape de Piccolo qui flotte au vent, qui l'enlève à l'envi. Et puis en plus, Piccolo il peut créer des vêtements, par exemple. Imaginons que tes vêtements aient été détruits dans un combat, il peut poser sa main sur toi et te faire la tenue qu'il veut, comme ça, parce qu'il a des pouvoirs divins aussi. Parce qu'en fait,
pouvoir couturier, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, Piccolo c'est Dieu. Pour ceux qui savent pas, Piccolo c'est Dieu, mais c'est compliqué. Il y a un autre argument en faveur du swag. Je vais vous montrer une photo.
Que les auditeurs ne verront pas.
Que les auditeurs ne verront pas, mais on va la décrire. Il y a un épisode hors série de DBZ. En fait, ce que vous savez pas, c'est que la série animée DBZ a énormément d'épisodes.
Bah si, on sait.
Ça, vous savez. Ouais. S'il y a autant d'épisodes, c'est parce qu'il y a beaucoup d'épisodes en fait, qui ne suivent pas la timeline du manga, parce que pour ne pas rattraper et dépasser...
Ils ont fait pareil dans Sailor Moon.
Ils ont fait pareil dans Sailor Moon, ils font pareil dans plein de séries,
des
Naruto,
saisons qui
etc.
servent à rien, en fait.
Voilà, on appelle ça des filler épisodes, c'est super courant. Et donc, il y a un filler épisode, en fait, où Goku et Piccolo passent le permis, et je vais vous montrer comment Piccolo arrive habillé. Ok. Donc en fait, je vous décris la photo. Smith, voilà, Piccolo arrive habillé avec une casquette retournée avec marqué Goku dessus, une snapback et un t-shirt. Voilà, et un t-shirt et une tenue de basket en fait que tout le monde sur Internet compare à Will Smith. Et donc tout le monde dit le mec est juste
Will Smith dans le
Prince
de Bel Air.
Dans le Prince de Bel Air, époque Prince de Bel Air. Et donc tout le monde dit Piccolo est le mec le plus swagué de la série. Et donc bref, Piccolo c'est également la cible du coup privilégiée de la black culture lorsqu'il s'agit de faire des dessins de fans, des représentations de fans, du fanart, des fanfics, des choses comme ça. Et vous savez, il y a une mode qui consiste notamment sur Instagram à représenter des personnages de manga et dessins animés, mais habillés en streetwear avec les marques Supreme, les trucs comme ça, Bape, Billionaire Boys Club. Et donc, Piccolo, dans ce cadre-là, Piccolo, c'est un des personnages préférés des artistes. Donc voilà, il y a aussi le fait qu'il a un comportement très dur, très distant, il est toujours un peu à part dans la série. Et ça aussi, beaucoup de gens, beaucoup de fans de DBZ rapportent ce comportement à celui qu'un noir peut avoir dans un environnement entouré de blancs. Bref, tout ça, ce sont un peu les stéréotypes du tall black guy, le mec un peu dur, la bonne carrure, le mec un peu swagué. Mais tout ça, finalement, ce sont que des tropes culturelles qu'on connaît.
C'est quand même assez stéréotypé.
Mais il y a des noirs aussi qui voient ça dans Piccolo, tu vois. Donc c'est pas entièrement incriminant. Mais tout ça, ce sont des tropes culturelles, on est d'accord. Mais il y a aussi des choses, en fait, plus profondes qui font que beaucoup de gens pensent que Piccolo est noir. Et le premier truc, c'est pendant la saga Boo. Vous savez, Boo, le gros truc rose. Le dernier arc de la série DBZ. Piccolo rencontre Babidi, le sorcier maléfique qui a ressuscité le maléfique Boubou.
Celui qui met des M sur le front.
Exactement.
Ouais. Comme sur ta casquette.
Exactement.
Ouais, c'est vrai que t'as la casquette.
Ouais. Et donc, il rencontre Babidi, il le tue. Et avant de se battre, ils ont un court dialogue assez surréaliste. Et je pense que Piccolo est le seul personnage de tout DBZ à avoir eu cette interaction.
Tu es vivant ?
Ça, c'est Babidi. Ça Babidi hein.
Et je ne voudrais surtout pas te vexer, mais ta peau a une drôle de couleur. Tu n'es pas malade, au moins ? Ou alors, c'est naturel. Si j'avais une peau pareille, j'aurais honte de sortir dans la rue. Mais c'est peut-être l'envie et la jalousie qui t'ont fait virer au vert.
Tu es le seul que la couleur de ma peau dérange. Si elle ne te plaît pas, tu n'as qu'à aller t'installer ailleurs, misérable larve.
Je t'interdis de m'insulter. Je ne suis pas venu tout seul et je pourrais très bien lui demander de s'occuper de toi. Alors, un conseil, ne m'énerve pas, sinon tu risques de le regretter jusqu'à la fin de tes jours.
Tu ne me fais pas peur, Babidi, je me moque de tes menaces et moi aussi je vais te donner un conseil.
On dirait Barbecue Becky un peu. On dirait Barbecue Becky qui m'a appelé la police.
Comment je suis kécho, quoi.
Ouais. Alors, cet extrait de la série sur YouTube, vous pouvez le trouver en tapant Piccolo n'aime pas les racistes.
Ah, c'est drôle.
Voilà, Piccolo est donc le seul personnage à avoir expérimenté le racisme dans DBZ.
C'est tellement codé, quoi.
Ouais, c'est assez génial. Et je pense que c'est totalement involontaire en plus de la part de Toriyama et des créateurs de la série. Mais c'est assez génial. Et donc, forcément, les internets ont pété un câble. La dernière chose qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus sérieuse, on va dire, c'est que Piccolo a un rapport à ses racines qui est un peu complexe. Avant l'arc de Freezer, vous savez, qui se déroule sur la planète Namek, Piccolo et les fans de DBZ ne connaissent pas vraiment les origines de Piccolo, et ils ne connaissent pas non plus ses congénères. On pense que Piccolo, au début, c'est une sorte de démon. Après, on comprend que Piccolo est affilié à Dieu.
C'est à l'époque, c'est avant Freezer, ça.
C'est avant Freezer. Ouais, et c'est au moment en fait, où on découvre Freezer et tout l'arc de Namek, que l'origine story de Piccolo est révélée, et que Piccolo découvre lui-même son propre peuple et ses propres origines. Mmh. Et donc, quand il arrive sur Namek, il découvre que son peuple est martyrisé par les hommes de Freezer et complètement exploité, évidemment, mis sous coupe presque des hommes de Freezer.
Presque en esclavage.
Exact, presque. Parce qu'ils ne sont pas esclaves, mais il y a
c'est quand la même, colonisation.
Il y a quand même cette idée. Ils sont raquettés, etc. Oui. Mmh. Et en plus, la planète Namek finira détruite par Freezer. Donc, évidemment, beaucoup de gens, comme vous le dites, ont fait le lien entre la planète Namek et la colonisation de l'Afrique. Et puis, le rapport de Piccolo avec ses propres origines, un peu distant, un peu déconnecté, un rapport un peu ambigu, le même rapport que des Noirs américains ou des Noirs de France, des Antillais comme toi et moi, Kevin, peuvent avoir avec la Terre-Mère, avec l'Afrique. Donc, pour toutes ces raisons, et Petite chose encore, Goku, lui non plus, il connaît pas ses origines au début. Il sait pas qu'il est Saiyan, il sait pas qu'il vient de la planète Vegeta. Seulement, l'histoire de Goku, déjà qu'il est blanc, et l'histoire de Goku est tellement similaire, vous savez, à l'origine story de Superman, que tout le monde fait ce parallèle-là. Parce que c'est pareil.
Et Superman, c'est juif, pour le coup.
Oui, voilà, Superman et Fudge.
Putain, tu dis ça super sérieusement, c'est vrai, c'est
ça? Oui, bien sûr. Enfin, dans l'idée, c'est ça.
Oui, c'est ça. Et Goku, il est comme Superman, c'est-à-dire qu'il était bébé, sa planète allait être détruite, il a été mis dans un vaisseau par ses parents, et le vaisseau est arrivé sur Terre. C'est exactement Superman. Et d'ailleurs, Toriyama, le créateur de DBZ, était super fan de comics, donc pas de problème. Donc du coup, les Afro-Américains...
Tout se recoupe.
Voilà, donc du coup, c'est pas la même chose que Piccolo. Et donc voilà, en gros, beaucoup de fans afro-américains ressentent une plus profonde connexion avec Piccolo qu'avec le reste du casting de DBZ. Moi, personnellement, en tant que fan de longue date, j'ai jamais eu cette réflexion. Je m'identifiais naturellement à Goku, tout simplement, parce que c'est le personnage principal, tout comme je pouvais m'identifier à Spirou ou à Astérix.
Ou à Tintin.
Ou à Tintin, malgré...
Et pas aux petits-enfants du Congo qu'il allait voir, du coup.
Malgré le fait qu'évidemment, si ma place devait être trouvée dans ces séries, ce serait plutôt la place du personnage secondaire. Mais on voit pas tout ça quand on est enfant, et à plus forte raison quand on est français. Je pense que la raison pour laquelle beaucoup de gens voient en Piccolo un noir, c'est parce que aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a une plus forte conscientisation de la race que chez nous. Voilà, tout simplement. Et il y a un autre truc qui je trouve très intéressant et qui a trait plutôt à la racialisation plus générale des personnages des dessins animés, qui sont des personnages totalement fictifs, aliens même. C'est que ce qui est intéressant, c'est que Piccolo, c'est l'un des seuls personnages dans DBZ qui a une race abstraite. Donc en fait, elle est ouverte à l'interprétation, elle est ouverte à toutes les projections. Et c'est ça qui rend intéressant le débat des stéréotypes raciaux dans les comics, dans les mangas et les œuvres de fantasy. Et c'est ce qui rend également crucial la question de la représentation. Parce qu'en fait, on n'échappe pas aux projections sociales et raciales, même dans ces œuvres-là.
Donc je trouve que c'est intéressant. Dans une œuvre qui est japonaise et qui n'est pas un pays qui est très traversé par les questions de multiculturalisme.
Ouais, et d'ailleurs, il y a tout un débat aussi sur le racisme. Dans les mangas. Donc,
mais la pop culture, de toute façon, se répond. C'est-à-dire que je pense que les œuvres japonaises ou asiatiques en général, elles répondent aussi aux œuvres, comme tu disais, aux œuvres américaines qui ont marqué le monde entier, quoi. Donc, tiens. Hein.
Ouais. Donc, de toute façon, je mettrai plein de liens. Enfin, je mettrai un ou deux liens d'articles et puis un lien de vidéo YouTube très intéressant si vous voulez aller plus loin sur cette question-là de Piccolo Noir dans la description de l'épisode. Voilà. Merci d'avoir écouté mon TED Talk. Même si vous avez aimé mon analyse ou pas, c'est pas une raison pour mater Dragon Ball Super. Arrêtez de mater Dragon Ball Super. Merci.
C'est bien vos trucs là.
Allez, Kevin, vas-y.
Je voudrais parler avec vous. C'est un peu un moment confession. Je voudrais vous parler.
Ou pas
Kev, assieds-toi, faut que je te parle.
Ouais, un peu ma pire visite de 2018. Ma pire visite, parce que je suis guide touristique, c'est mon boulot. Je tiens à préciser que c'est mon métier, que j'aime ce que je fais, etc. Mais en juillet, il s'est passé une visite un peu particulière. C'était au moment d'Afropunk. Et du coup, j'ai collaboré avec une agence de jeunes noirs américains qui organise le Black Travel Movement un peu partout dans le monde. Ça s'appelle Black and Abroad. On a bien collaboré ensemble. Et donc, dans le cadre d'Afropunk, j'ai fait une visite pour eux. Et donc, au cours de cette visite, il y a eu une belle prise de tête. Parce que, en gros, sur cette visite-là, c'était une visite en anglais avec des Afropéens d'un peu partout. Donc, des Norvégiens, Éthiopiens, des Métis siciliens, Camerounais, enfin voilà, des personnes d'origine très variée, et aussi des Afro-Américains. Et parmi ces Afro-Américains, il y avait une dame, on va dire assez véhémente, qui dès le début de
une
l'introduction...
Une dame noire, du coup.
Oui, okay. une femme noire. Qui dès le début de la visite s'est un peu agacée parce que juste je disais qu'en France, en Europe de façon générale, on ne parlait pas de race de la même façon qu'aux États-Unis, que c'était un pays où on parlait plus facilement de classe sociale par exemple. Et là directement elle m'interrompt, elle me fait non c'est pas vrai, le racisme aussi il existe chez vous en Europe, machin, c'est juste que le colonialisme, etc. Je fais madame...
Don't shoot the messenger.
Voilà, madame je suis martiniquais, ne venez pas me American-splainer le colonialisme européen, l'impérialisme européen, ça va aller, je dis juste voilà. C'est comme ça que le débat est.
Le colonialisme, Binzer Donzat.
Voilà, c'est ça. Et donc, on continue. Et à un moment, on arrive à Barbès. Et à Barbès, je dis, on arrive à Barbès, boulevard Rochechouart, etc. Donc, pour l'instant, c'est un quartier qui est plutôt majoritairement nord-africain, algérien. Et là, il y a une autre femme américaine qui m'interrompt et qui me dit, nord-africain, sud-africain, ouest-africain, est-africain, ce sont des conceptions que d'autres personnes ont inventées pour nous, les Blancs. Est-ce qu'on pourrait pas tout juste, on pourrait pas tous juste être noirs et africains ? Et je lui réponds, bah, Barbès, c'est un peu compliqué, tu vas pas arriver à high-five, à faire des high-five à tout le monde, mon frère, c'est pas grave, Algérie, machin, etc. Et je lui fais, bah, les gens ont des identités nationales aussi, c'est parler d'une seule communauté noire, etc. C'est une sorte, c'est un peu trop simplifié, etc. Et à ce moment-là, la première dame qui m'avait interrompu parce qu'elle aimait pas la façon dont je parlais de la race, m'interrompt et dit à sa copine, de toute façon, ma chérie, il faut que tu comprennes un truc. C'est que, en dehors de nous, les Noirs américains, les autres Noirs du monde, ils savent pas qu'ils ont quitté l'Afrique sur des bateaux d'esclaves.
Oh God.
Espèce d'impérialiste.
En fait, déjà, j'ai répondu que c'est la chose la plus offensante que j'ai jamais entendue de ma vie. Et on s'est engueulé pendant quelques minutes et je ne sais plus ce que je lui ai dit. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que vous avez cette impression qu'il y a un décalage entre les deux côtés de l'Atlantique sur la question de l'identité de
moi,
la race.
Ce que ça m'évoque là, c'est son truc sur les Africains. Enfin, est-ce qu'elle est déjà allée en Afrique ? Parce que je suis pas sûre que tu vas au Maghreb et que tu leur dis qu'on est tous africains, ils vont te.
Déjà, il y a ça. Mais ça, c'était même pas le point de vue de celle-là. Mais elle rebondissait dessus. Mais oui, mais je vois ce que tu veux dire.
Déjà, en fait, les deux, pour moi, les deux réponses étaient à côté de la plaque. C'est-à-dire que celle qui a dit ça, je suis pas sûr qu'elle soit allée en Afrique, et l'autre qui lui a répondu en disant de toute façon les Noirs ici en Europe ils savent pas qu'ils étaient ils ont été esclaves, enfin évidemment qu'on le sait, c'est juste qu'on n'a pas je pense autant de poids politique et autant de place médiatique que les Afro-Américains peuvent avoir aux États-Unis, donc forcément on n'est pas dans la même situation, et peut-être que eux qui sont en plus qui ne sont pas français, donc qui sont pas en contact avec, je pense, la communauté noire française.
Ou les communautés,
ouais. On va dire, ouais, voilà. Les communautés noires françaises. Et donc, je pense qu'elles savent pas, en fait, de quoi elles parlent. Elles ont pas parlé aux gens, quoi. Et en plus, le seul exemple qu'elles avaient potentiellement, ça pouvait être toi, elles pouvaient discuter avec toi, mais tout de suite, elles ont cherché à te contrer, quoi.
Ça, c'est pas très, très bien.
J'aimerais bien savoir un peu le regard que des Africains portent sur les Afro-Américains. On a eu des petits indices au fur et à mesure des différents épisodes du Chip. Mais c'est marrant parce que les Américains, ils sont très dans une vision, une vision très monolithique de l'Europe et de l'Afrique, mais bon, ça, c'est aussi à cause de plein de biais politiques et culturels, malheureusement.
On a nos biais aussi à nous. Hein,
ah oui, bien sûr, c'est pour ça, tu vois, ouais. j'en parle pas ouais. de manière. Je dis pas ça pour condamner, c'est juste un constat. Et puis, les Afro-Américains, plus spécifiquement, ils sont dans une représentation super, super spé, super fantasmée de l'Afrique. Ça donne des choses à la fois super intéressantes, parce qu'il y a des panafricanistes super intéressants. Il y a des fêtes religieuses comme Kwanzaa, le Noël des Afro-Américains, qui n'existent pas du tout en Afrique. Ouais. Qui est une
joyeux
construction.
Kwanzaa pour ceux qui nous écoutent.
Ils ont les Hotep qui sont des mecs qui se revendiquent de l'Égypte ancienne et des trucs comme ça, et qui revendiquent une sorte de retour aux racines. C'est super intéressant, et on gagnerait à avoir des choses comme ça en France. On a eu la négritude, ok. Mais on gagnerait à avoir des mouvements.
Ça existe en France, hein.
Ça existe. Mais c'est moins prévalent, j'ai l'impression, que là-bas. On n'a pas un équivalent des Hyper Centers, tu vois.
Donc on n'a pas une culture, en fait, qui descend de ça comme ils peuvent avoir, j'ai l'impression.
Ouais, ouais. Donc ils ont une forme de célébration de l'Afrique qui est super intéressante, et en même temps c'est une forme de célébration qui est vachement fantasmée et parfois même factuellement complètement fausse, quoi. Enfin, complètement construite dans leur tête, et presque condescendante des fois.
Condescendance, en fait, moi je la c'est pour ça que je disais impérialiste, c'est parce que au final les Afro-Américains sont quand même américains. C'est-à-dire qu'ils sont quand même dans le pays le plus puissant au monde, économiquement, et ça se ressent quand ils parlent de l'Europe ou quand ils parlent de l'Afrique, quoi.
Et est-ce que nous, en tant que Noirs de France, lorsqu'on parle, est-ce qu'on porte toute l'arrogance de l'impérialisme français ?
On est plus proche de l'Afrique que les Américains. Franchement, on a des vrais Africains d'Afrique.
Là, on va couper ça. On va couper ça.
Tu vois, ce que je veux dire. Ouais. On a des vraies personnes qui viennent d'Afrique et qui vivent
ici. Ils viennent d'Afrique
ici.
Aussi, tu vois. Non, mais les Afro-Américains.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des communautés ici. On a des communautés congolaises. Voilà, c'est ça. On a des Ivoiriens, on a des Congolais, on a des Sénégalais qui vivent ici, qui rentrent au bled ou qui rentrent pas au bled. Donc on a MHD, merde, on a une proximité avec l'Afrique, et on je pense qu'on a une vision beaucoup plus juste de l'Afrique que les Afro-Américains, et pourtant eux ils ont ce folklore qui est super intéressant et que nous on n'a pas.
Un des trucs qui va un peu dans le sens que tu disais, c'est au moment de la sortie de Black Panther. Ouais. Où le film, en fait, la réception du film, pour moi, a montré un peu ces petites amertumes au sein de entre diaspora, continent, etc., avec un peu l'argument de ces noirs américains qui n'y connaissent rien, qui réinventent l'Afrique, qui parlent de folklore africain, etc., alors qu'ils n'y connaissent rien. Et pour moi, ça, c'est un débat de noirs. J'ai pas l'impression que les blancs et ces conversations-là, entre qui sait vraiment de quoi ils parlent, lorsque des Américains décident de faire un film hollywoodien sur de l'heroic fantasy qui s'inspire, je sais pas, très très librement du Moyen-Âge européen. Les Irlandais, les Français et les Allemands font pas « Non mais attendez, les mecs d'Hollywood, de quoi vous parlez là ?» Alors que c'est vrai que pour nous, comme nos histoires sont pas forcément bien suffisamment racontées, c'est beaucoup plus sensible.
Les enjeux sont quand même plus forts.
Kevin, t'es fan de stand-up, c'est très drôle d'entendre la façon dont les humoristes afro-américains de stand-up parlent des Africains.
Ouais.
Ils font une sorte d'accent nigérian un peu générique, un peu comme dans Black Panther.
Ouais.
Et c'est très drôle, il y avait l'actrice de Insecure, celle qui joue la meilleure amie de Issa, Molly.
Ouais.
J'ai oublié son vrai nom à cette femme, qui dans une interview au Breakfast Club racontait justement, parce qu'elle est issue de la communauté nigériane, et elle disait que les Africains aux États-Unis sont une communauté dans la communauté, c'est une minorité dans la minorité, et ils ont une place très à part, et parfois ils se font un peu, pas bully bien sûr, mais ils se font bolosser par les Afro-Américains.
Elle s'appelle Yvonne Orji. Yvonne Orji.
Merci. Voilà, donc c'est marrant quoi.
Mais dans Atlanta aussi, il y a un truc où ils parlent des Nigériens.
Oui, ouais, parce que Darius est Nigérian.
Darius le dit, ouais.
Tu ne peux pas avoir confiance.
Moi, j'ai eu ça en vrai avec des groupes d'étudiants, donc majoritairement afro-américains. Et puis dans le groupe, il y en a qui disent « I'm not African-American ». Elle fait « Non, moi je suis ghanéenne hein. ». Et les autres font « Ah bon, bah, excuse-moi, moi je suis afro-américaine, ça te pose un problème ». Et c'est très intéressant.
Même dans la première saison de Dear White People, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais
il y a un personnage, je ne sais plus de quel pays il vient.
Et en fait, effectivement, comme tu dis, tout le monde se fout un peu de lui, quoi, parce qu'il parle pas très bien anglais, parce qu'au final, il est noir.
Mais lui aussi, il les juge. Oui. Il les juge pas mal. Genre, ouais, vous êtes complètement perdus, ce qui est aussi un cliché qu'on a. Enfin, c'est toujours la question de la légitimité quand la diaspora parle. Et donc, c'est le truc, un peu, les Américains aussi devraient se taire parce qu'ils savent pas de quoi ils parlent. Donc, c'est intéressant, tous ces différents points de vue. Sur la question du tourisme et la sensation qu'ils ont de pas toujours être les bienvenus, c'est pas que de la parano. C'est qu'effectivement, un exemple qui est cool, c'est il y a quelques temps, j'étais à Bruxelles pour ce séminaire sur décoloniser le voyage, et il y a une jeune femme noire américaine qui s'appelle Martinique. Et elle est blogueuse de voyage.
Martinique.
Et on parlait, donc c'était le séminaire, enfin le panel, c'était un peu sur l'identité afro-péenne, voyager quand on est noir d'Europe, la relation avec l'Afrique, etc. Et à un moment, il y avait une femme noire écrivaine qui est, elle, britannique, et qui parlait de son expérience, elle, de femme noire aux États-Unis, et de tout ce que ça lui renvoyait de négatif, parce qu'elle se prenait plein de trucs dans la gueule, parce qu'elle ne correspondait pas au cliché qu'on a des noirs. Et même pour les noirs américains, il y a des fois, elle dérangeait. Et à la fin, cette jeune femme, Martinique, elle prend la parole et d'une certaine façon, elle s'excuse en disant « Voilà, qu'on fait les gros Américains qui débarquons en Europe avec un peu nos gros sabots, etc. » C'est juste que la communauté noire américaine a eu accès au voyage à l'étranger, au passeport, à toutes ces choses-là.
Tard.
Relativement tard comparé aux États-Unis. Et effectivement, elle expliquait ça par la ségrégation. Ce ne sera pas une réponse à tout, évidemment, mais c'est quelque chose qui, lorsqu'on parle de voyage, rentre en compte. De voyage à l'étranger, mais aussi de voyage à l'intérieur du pays. Si on pense au voyage à l'intérieur du pays, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode avec Clémence, donc il y a 3 épisodes, lorsqu'on parlait de voyage noir, on a mentionné le Green Book.
Ouais.
Je vais vous faire écouter un extrait d'un film qui va sortir en France.
Oscar bait.
Un peu, ouais. Qui va sortir dans quelques mois, fin janvier 2019, qui s'appelle justement Green Book.
Ouais, il y a un gars qui vient d'appeler, un docteur. Il cherche un chauffeur. Ça t'intéresse ?
Je ne suis pas docteur en médecine. Je suis musicien. Je suis sur le point de partir en tournée dans le Sud profond. Quel genre d'expérience avez-vous ?
Les relations publiques.
Verriez-vous un inconvénient à travailler pour un noir ?
Vous, dans le sud, ça va causer des problèmes.
Promets-moi que tu m'écriras.
C'est promis. Dites pas que ça sent pas bon, ça.
Je n'ai jamais avalé de poulet frit de toute mon existence.
Même les gens comme vous adorent le poulet frit.
Vous avez une vision de moi plutôt étriquée, Tony.
Ouais, je sais. Je suis un malin.
Donc Green Book, comme Mélanie, tu disais Oscar bait, comment on dit, à pas Oscar, mm-hmm. c'est un film, à mon avis, qui va un peu jouer sur les bons sentiments, l'amitié,
bah déjà,
etc.
Déjà, quand t'as Mahershala Ali, ça joue bien, quoi.
Oui, non, Mahershala Ali, donc Moonlight, House of Cards, il va jouer dans la saison 3 de True Detective. Oui, et donc là, dans ce film, dans Green Book, il apparaît aux côtés de Viggo Mortensen.
Ouais.
Et donc, en fait, il interprète un pianiste de talent qui s'appelle Don Shirley et qui va faire une tournée dans le sud des États-Unis. Donc, il a besoin d'un blanc, d'un homme de main, en fait, pour le protéger. Donc, il recrute cette espèce de videur du Bronx, interprété par Viggo Mortensen, et ils vont voyager dans le sud en s'appuyant sur le Green Book. Le Green Book, c'est ce livre qui existait vraiment, qui en gros recense à travers les États-Unis les lieux où les Noirs sont bien accueillis. Donc voilà, ça va être ça l'histoire. Je pense pas que ce sera nécessairement ma came, mais j'irai le voir quand même for the culture. Mais il y a
pour la culture.
Pour la culture, c'est ça. Mais voilà, il y a toute cette question de la liberté de voyage et de la façon dont tu es accueilli. Donc aussi qui va influencer ta façon de te comporter lorsque tu voyages, être plus ou moins sur tes gardes, à être plus ou moins vigilant sur tout ce qui pourrait se passer, tout ce qui pourrait être raciste. Et puis, ça m'inspire aussi autre chose. En conclusion, tu vois, sur toute cette question des Américains qui voyagent, du fait d'être noir à l'étranger, là, on est en plein dans la commémoration d'un super voyageur, en fait, noir américain, qui s'appelle James Baldwin. Qui est quelqu'un, voilà, qui me tient particulièrement à cœur. Et je vous recommande un documentaire qui est visible sur YouTube, on vous mettra le lien, qui s'appelle Un étranger dans le village. Et en 1962, donc exactement à la même époque que le film Green Book, ouais. James Baldwin, lui, vit dans un petit village en Suisse où c'est le seul noir, où c'est même probablement le seul noir. Donc c'est un petit documentaire de 28 minutes où on le suit en fait dans sa vie au quotidien en Suisse, dans ce village où les gens n'ont jamais vu de noir, notamment les enfants qui lui courent autour. Lui, il a toute une réflexion sur ce que c'est d'être américain, ce que c'est l'expatriation, ce que c'est l'exil, tout ça. Petite scène cocasse à un moment, donc ça se passe vraiment dans la Suisse profonde, assez isolée, et ils ont, donc il y a une église qui fait une collecte pour l'Afrique, et donc on récupère de l'argent pour l'Afrique, et du coup, comme le thème c'est l'Afrique, qu'est-ce qu'on fait?
On le met en avant, quoi.
Non, on fait des blackface.
Ah. Oh.
Voilà, donc blackface dans les années 60 en Suisse, parce qu'on va sauver l'Afrique.
Non,
mais
quoi,
c'est incroyable, on peut plus s'en sortir. Et à la fin de ce documentaire, qui est super cool, il parle de la question des Noirs en Europe dans les années 60. Il dit qu'en gros, les Européens doivent s'inspirer, doivent regarder ce qui s'est passé en Amérique sur la question raciale, parce que d'une certaine façon, même s'il y a l'histoire coloniale, l'impérialisme, etc., les Européens dans les années 60 sont relativement préservés de cette question-là, n'ont pas à se la poser. Donc, il pose une sorte de défi à l'Europe en disant, ben voilà, on vous regarde et on va voir comment vous allez régler cette question-là. Et donc voilà, là on est 50 ans plus tard.
Et on
voilà.
A le chip.
Et on a le chip. Donc voilà, donc un étranger dans le village aussi sur cette question du voyage, de l'exil, du black travel.
Je voulais juste rajouter un truc sur Green Book. T'en as pas parlé, mais je sais pas si t'as suivi la promo du film.
Non.
Non. Ils ont présenté le film à un moment, ils ont fait un débat et Viggo Mortensen, qui joue donc le blanc du film, a dit mais ce qui a changé, c'est franchement, il faut voir tout le chemin qu'on a parcouru. Aujourd'hui, on peut plus dire le mot, en fait, le N-word.
Il a pas dit N-word, il a dit nague.
Ouais.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et donc là, petit dérapage, on peut plus le dire, mais on le dit quand même,
il,
en fait.
Il est resté coincé en 62, donc.
vite, il y a les publicistes qui ont dit non, mais il a pas fait exprès.
Il
n'a pas du tout, il a aucune trace de racisme en lui, tout va bien. Donc voilà.
Donc, tu voulais ajouter un truc, François ?
Bah, juste, parce que t'avais l'air de conclure,
ouais.
Vous êtes certainement pas devenu ami, mais du coup, comment ça s'est goupillé avec ces deux femmes
Alors, du coup, elle est restée me regarder méchamment pendant à peu près la moitié de la visite, tu vois, à traîner des pieds, à parler fort, etc. Et puis, à peu près la moitié de la visite, elle s'est cassée.
Oh.
Et,
elle a payé au moins.
C'est déjà payé en avance.
Okay.
Elle a pas fait un Paris Noir Basket.
Mais non, pas mal. Mais à la fin de la visite, je suis allé voir les organisateurs qui m'ont dit je crois qu'il y a eu un problème. Et j'aurais fait ouais. Ils m'ont dit non, mais t'inquiète, on l'avait repéré, on a vu qu'elle était chiante, t'inquiète, c'est pas de ta faute, c'est un cassos, voilà, y a pas de souci. Et voilà, donc c'était ma mauvaise visite de 2018, mais ça m'a poussé à la réflexion, j'en ai pas mal parlé autour de moi, c'est un truc qui m'avait un petit peu... J'avais pas de bonne réponse en fait à faire à ces trucs-là, et surtout, le problème que j'ai vis-à-vis de ce débat-là, c'est que j'ai l'impression que le travail que je fais, c'est aussi déconstruire des clichés, des représentations, des stéréotypes.
Et tu tombes sur un cliché.
Et voilà. Et en fait, ce que je disais, c'est très problématique, mais ce que je disais quand je vais décrire cette dame, je disais ferme les yeux, ok, sois raciste et sexiste. Maintenant, imagine une femme noire. Ben, c'était elle. Ah. Voilà.
Je cautionne pas. Hein,
oui, j'ai dit que c'était problématique. C'est le chip spécial. Donc voilà. Donc en conclusion, ben, j'en ai pas vraiment. Si ce n'est que ben, j'encourage toujours au voyage. Et que ça ouvre les perspectives, le cœur et les yeux. Voilà, c'est tout.
Alors, c'est l'heure des recommandations. La dernière de 2018. Donc du coup, on va faire quelque chose d'un peu spécial, c'est-à-dire qu'on plutôt que de revenir sur l'année 2018 où on a déjà parlé de tout ce qu'on vous recommandait, tout ce qu'on a aimé, on va se tourner vers 2019 et dire ce qu'on attend avec impatience en 2019. Donc moi, je vais parler de Glass de M. Night Shyamalan.
Shyamalan.
J'ai toujours du mal à dire son nom.
Ton copain n'a pas littéralement écrit un bouquin dessus.
Oui, ça ne veut pas dire que j'arrive à prononcer ce nom.
Pardon.
Donc Glass, c'est un thriller fantastique dont la sortie est prévue quelque part en 2019. On n'a pas encore la date de sortie précise. Donc il faut savoir que le réalisateur, il est controversé. On lui accorde quelques chefs-d'œuvre comme Sixième Sens, mais on lui reproche aussi des flops comme La Jeune Fille de l'eau ou Le
Avatar.
Dernier Maître de l'Air. Ah voilà, je savais que t'allais m'en parler. Parce que
le
manga, c'est un comics.
En fait, je suis fan du dessin animé.
Voilà. Et il y a un
Cartoon
dessin
Network,
animé
ouais, qui est très 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 bon.
Et il l'a adapté. Avatar.
Avatar, Le Dernier Maître de l'Air. Sauf que Shyamalan a fait une version live.
Ah, okay.
Qui lui a été beaucoup reproché parce qu'il a whitewashé. Les méchants sont tous devenus des personnages de couleur et les gentils sont tous devenus blancs. Bref. Donc voilà, quand même, Shyamalan, il a quand même reconquis beaucoup de monde avec Split qui est sorti l'année dernière. Qui était un thriller qui mettait en scène James McAvoy dans le rôle de Kevin Wendell Crumb, un meurtrier doté de personnalités multiples. Donc ça a été un gros succès au box-office et un gros succès critique. Et donc ça, c'est quand même remarquable pour lui parce que c'est pas toujours le cas. Et surtout, ça a été le début d'un Shyamalaverse, on peut dire.
Shyamalverse.
Puisque la scène post-crédit du film révèle David Dunne, aka Bruce Willis, qui est assis à une table et qui regarde les infos rapportant les crimes de Kevin Wendell Crumb. Donc ça place le film comme une suite directe d'Incassable, qui était la genèse en fait d'Elijah Price, incarné par Samuel L. Jackson, le méchant alias l'homme de verre qui a provoqué des accidents pour prouver l'existence des super-héros, pour ceux qui n'ont pas vu Incassable. Donc la bande d'annonce de Glass est tombée il y a quelques mois et tout le monde s'en est pour lécher les babines.
Je suis spécialisée dans le traitement des patients qui se prennent pour des super-héros.
Félicitations.
Vous êtes tous les trois persuadés d'avoir des pouvoirs extraordinaires comme dans une bande dessinée.
Donc la voix qu'on entend, c'est celle de l'actrice Sarah Paulson. Et les trois hommes en face d'elle sont donc Elijah Price, Samuel L. Jackson, Kevin Wendell Crumb, James McAvoy et David Dunn, Bruce Willis. Donc on n'en sait pas beaucoup sur le plot, juste que David Dunn va se lancer sur les traces de la bête, qui était l'une des personnalités multiples et monstrueuses en fait du personnage de Split, qui a commis des crimes. Donc voilà. Donc j'ai regardé personnellement avec mon partenaire, tous les bonus Blu-ray de Split. Et j'ai découvert que l'un des faves du Chip, Sterling K. Brown, avait été coupé au montage de Split. Il avait un rôle assez proéminent qui finalement a complètement été effacé du montage final. Il jouait le love interest de la psy du personnage principal. Donc le fait de revoir Samuel L. Jackson dans un rôle de légende et de peut-être avoir Sterling K. Brown non coupé au montage cette fois, je dis oui, merci.
Alors moi, en recommandation, plus attente, expectation pour 2019, il n'y a pas encore de bande-annonce malheureusement, il y a moins de 24 heures, il y a un poster en fait, sur Instagram, Jordan Peele a révélé l'affiche, le poster de son prochain film qui s'appelle Us. Donc on voit une personne noire tenir une paire de ciseaux, donc ça annonce peut-être quelque chose d'assez...
C'est toujours un film d'horreur sociale, comme il
voilà,
va dire.
C'est ça, je viens de lire une brève dessus et il y a dedans l'acteur Winston Duke qui joue Mbaku dans Black Panther, qui dit que le film est pilien. comme on dit, un film lynchien pour David Lynch.
Il a gagné son adjectif.
Voilà, il a gagné son adjectif. Très, donc très il a dit, vous verrez, après ce film-là, on utilisera, ce sera une chose. Ah, ce sera un adjectif. Bon, l'adjectif
ouais. J'ai vu que Lupita avait retweeté, je ne savais pas qu'elle était dans le film.
Elle est dans le film aussi, et donc en acteur noir Winston Duke, Lupita Nyong'o, et une actrice que j'aime bien, une actrice blanche qu'on garde, Elizabeth Moss.
Elle est scientologue quand même, mais bon.
Okay. Voilà, liberté religieuse. et elle jouait dans Mad Men, dans The Handmaid's Tale, donc super actrice. Le film a une date de sortie en France. Je pense que
31 décembre 2019.
Non, mais justement, pour Get Out, ils avaient pris, mais je sais pas, 4 ou 5 mois à le sortir. Et là, il va sortir en mars, ce que je crois, et la sortie internationale. Donc aussi, c'est cool que Jordan Peele ait sa sortie en France comme un film simultané, comme un film important.
Cool, ouais, le chip y sera du coup.
Ouais, et le chip y sera, et ce sera pas un film de seconde zone qui sortira dans 4 salles 6 mois après. Genre, mais non, mais c'est de la culture VO underground, on va pas comprendre.
On connaît pas le casting.
Tout ce genre d'excuses, non, là, ça, je pense que ça va être une tuerie. Si c'est pas bien, je le dirai, mais je pense que ce sera très, très
donc
bien.
Donc Jordan, invite-nous. Hein.
C'est ça, à l'avant-première. C'est
ouais,
ça.
C'est sûr. Alors, ma recommandation à moi va faire grincer quelques dents, peut-être pas parmi nous, hein, mais...
J'essaie de grincer des dents, mais je sais pas si ça marche.
Ah ben, sors dehors avec le front qui fait, tu vas y arriver. C'est la série Trigger Warning avec Killer Mike. No racism, but you're Asian. And I'm only spending money in the black community for the next 3 days, so you ain't black. You want to see you in the Bible. I want to see a black savior. Alors ouais, au début de l'insert, c'est assez génial en fait. Il est dans un strip club, il y a une stripteaseuse qui est asiatique qui veut du coup lui faire une danse, et donc c'est pour ça qu'il dit qu'il va pas lui donner d'argent, parce qu'il ne dépense d'argent que dans la communauté noire. Killer Mike, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est d'abord un très 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 bon rappeur, un entrepreneur, un activiste, mais surtout un pilier de la scène rap d'Atlanta, qui a été révélé notamment aux côtés de la Dungeon Family, donc Outkast et compagnie. C'est vraiment un proche de T.I. C'est vraiment un pilier du rap du sud.
Ce vieux tube Bone Crusher,
oui, I'm scared. Donc voilà, si vous connaissez pas Killer Mike, écoutez I Pledge Allegiance to the Grind 1, 2 et 3. Écoutez Run the Jewels également, les albums de Run the Jewels.
Voilà. Ah, ça je connais, ils ont fait.
Ils ont utilisé pour Black Panther, la VO. La bande annonce.
Oui, ils étaient sur la VO de Black Panther, en effet. Dans Trigger Warning, donc, Killer Mike va explorer ce qu'ils appellent des tabous culturels, tels que la représentation de Jésus en tant qu'homme blanc ou la marchandisation de la culture des gangs. Ça va être. Enfin, le trailer donne vraiment envie. Personnellement, Killer Mike, c'est un peu un héros pour moi. Enfin, ça fait très très longtemps que je suis ce personnage et que j'écoute sa musique. C'est quelqu'un de très vocal, de très cash et de très politisé également.
Un peu conspirationniste sur les bords.
Un peu conspirationniste sur les bords, mais aussi et surtout très politisé. Ouais. C'est un soutien ouvert de Bernie Sanders. C'est
moi,
un fan...
J'ai cru que t'allais sortir le T-word.
C'est un fan de Bernie Sanders. Il a d'ailleurs fait une vidéo interview, conversation ouverte de une heure avant, pendant l'élection américaine, avec Bernie Sanders. C'est un fan du rap très conscient d'Ice Cube. C'est également un soutien très virulent du deuxième amendement, parce qu'il estime que le deuxième amendement, si jamais il était révoqué, placerait la communauté noire en situation de vulnérabilité.
Deuxième amendement.
Deuxième amendement ?
Oui, c'est pour le droit à porter des armes.
Oui, désolé, j'ai oublié de le dire. Le deuxième amendement américain, c'est le droit à porter des armes, en effet. Il est pro-black business, il est panafricain, bref, voilà. Je suis très étonné que Vice ou un autre média n'ait pas donné encore de plateforme à ce personnage pour s'exprimer. Donc je suis très content, j'attends avec impatience de pouvoir regarder Trigger Warning. Il aura 6 épisodes
sur Netflix.
À partir de janvier 2019 sur Netflix.
Et bien voilà, c'était le dernier chip de 2018. Mais on a fait beaucoup cette année. Ça a été une belle année, bien chargée en podcasting. Mais 2019, ce sera encore plus dingue. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Instagram.
@lechippodcast.
On revient en 2019, mais on n'a pas encore de date. Mais on revient en janvier.
Ou en février ou en mars.
Ou en février ou en mars. Non, on revient en janvier, les gars. Laissez-nous une review sur Apple Podcast. Vous pouvez nous trouver aussi sur Spotify, toutes les plateformes de streaming de.
Deezer, non ?
Deezer, je sais pas.
YouTube aussi.
D'ailleurs, si vous avez écouté le live et que vous le kiffez, normalement, il devrait il devrait être filmé et diffusé sur YouTube d'ici peu. Enfin, peut-être déjà, parce qu'on est dans le passé et que vous nous écoutez.
Sur le YouTube de Binge.
Dans le futur. Sur le YouTube de Binge, vous pourrez voir le live du Chip. Voir François, tu as dabé hier soir ou pas?
J'ai dabé deux fois au moment où t'as cité Gouba. Oui.
Ah ouais, ben voilà, vous pourrez voir François dabé si vous voulez.
Ça m'intéresse.
Cette émission a été réalisée par Jules Gelaoui. Merci Jules.
Merci Jules.
Merci.
Bonne fête à vous. Embrassez les gens que vous aimez.
Faites attention au 31.
Et c'est bonne année.
Précaution.
Avec modération.
C'est ça. À très vite. Bisous. Bonne année.
Binge.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.